Irish Coffee.
Et ça, ça réveille, c'est pour toi Louis Lardière, tu es notre invité aujourd'hui, salut.
Eh bien bonjour Léo, bonjour à tous.
Et tu nous fais l'honneur d'être aujourd'hui au micro de Radio Campus, on va parler de beaucoup de choses. Mais avant tout ça, et il faut que tu te présentes, Louis, qui es-tu et que fais-tu dans la vie ?
Tout à fait, donc je m'appelle Louis Lardière, j'ai 21 ans et donc actuellement je suis en cursus d'ingénieur agronome à Bordeaux Sciences Agro, donc qui est une des 12 écoles d'ingénieur agronome de France. Et donc je suis un étudiant passionné avant tout et engagé depuis tout petit dans le monde agricole, donc c'est-à-dire pour la promotion du monde agricole, mais également pour essayer de changer les choses, de ramener de la durabilité à nos systèmes. Et c'est aussi pour ça que je suis là aujourd'hui, pour discuter un petit peu de tout ça.
Alors, est-ce que tu peux nous parler un peu en détail de ce que tu étudies, les différents modules pédagogiques qu'on rencontre à Bordeaux Sciences Agro ? Parce que c'est vrai qu'on n'en parle pas beaucoup.
Tout à fait, donc le cursus d'ingénieur agronome il est assez complet, en fait on va étudier ce qu'on appelle les sciences du vivant, donc c'est-à-dire les interactions entre le monde qui nous entoure, donc ça va être autant au niveau biologique, au niveau production, donc animale, végétale diverse. Également on va avoir des modules autour de la gestion d'entreprise, des stratégies d'entreprise pour pouvoir pourquoi pas être amené à être ensuite chef d'entreprise agricole ou chef dans un autre domaine. Et c'est un cursus qui est assez global et qui, en fait, aujourd'hui, est aussi là pour tenter de répondre aux divers enjeux que connaît le monde agricole, donc qui sont des enjeux de durabilité, on en parle souvent, d'écologie, mais également des enjeux aussi de souveraineté alimentaire dans un contexte notamment actuel avec diverses crises et diverses problématiques environnementales.
Alors toi qui, justement, tu baignes dedans, ces enjeux, on en parle, mais c'est toujours très vague. Est-ce qu'on peut revenir un peu précisément sur ces enjeux qui touchent le monde de l'agriculture ?
Aujourd'hui, il y a plusieurs enjeux. Déjà, je dirais que l'enjeu numéro un, donc, c'est de produire en quantité suffisante, mais aussi en qualité suffisante. Donc pour cela, il y a diverses pratiques qui sont étudiées, hein, des pratiques au niveau culturel, des pratiques au niveau bien-être animal, etc. Et la seconde, qui est aujourd'hui, je dirais, le plus gros enjeu auquel fait face l'agriculture, c'est l'enjeu du renouvellement des générations. En fait, il faut savoir que dans les 10 ans à venir, et donc là, ça s'est entamé depuis à peu près 2 ans, il y a à peu près 50% des agriculteurs qui partent à la retraite, et en face, il y a à peine 20% de jeunes qui s'installent. Donc, c'est-à-dire qu'il y a vraiment des problématiques en termes de renouvellement. Et en fait, il faut savoir que les denrées agricoles, on en a besoin, c'est vital pour nos vies. Hein. Autant on peut se passer du téléphone, des transports, etc., mais on ne peut pas se passer d'alimentation. Et voilà, ce rôle pour susciter des vocations est important, et ça je dirais que c'est l'enjeu numéro un aujourd'hui. Pour produire des denrées en quantité et en qualité suffisante, il faudra des hommes avec un grand H derrière, et aujourd'hui il faut susciter des vocations dans le milieu pour pouvoir renouveler ces hommes et ces femmes qui partent à la retraite pour nourrir la population.
Et selon toi, comment on fait pour susciter des vocations comme ça dans l'agriculture ?
Eh bien, déjà, je pense que ça passe par la communication, parce que c'est vrai que le milieu agricole, c'est un milieu qui est finalement peu connu en fait, par le grand public. Il faut savoir que le métier agriculteur, c'est un métier qui est très noble, hein, déjà qui est à la base de nos populations, qui est un métier nourricier, qui est un métier qui a du sens, qui est un métier aussi avec une grande polyvalence, car il faut savoir que quand on est agriculteur, on n'est pas en fait dans le cliché de la personne qui est simplement avec ses vaches ou dans ses tracteurs. On est aussi avant tout, donc on est mécanicien, on est éleveur, on est comptable, on est gestionnaire de main-d'œuvre, on est vraiment un chef d'entreprise avec tout un tas d'actions diverses à effectuer. Et en fait, en plus d'avoir un rôle nourricier, on a aussi un rôle d'entretien des paysages, parce que c'est les agriculteurs qui vont former en fait ces paysages quand on part en vacances, etc. Et tout ça, c'est méconnu du grand public. Donc à mon sens, en fait, il faut communiquer sur l'intérêt de l'agriculture, le rôle des agriculteurs, et communiquer en fait dès le plus jeune âge, donc par exemple dans les écoles primaires, dans les collèges, etc., pour que les jeunes s'intéressent au milieu et au métier, et qu'ils puissent potentiellement aller vers cette vocation-là.
Mais c'est un métier qui est extrêmement difficile, agriculteur, notamment en termes de conditions de travail. Est-ce que ça s'améliore justement ?
Tout à fait, oui. Aujourd'hui, on ne vit plus vraiment comme nos ancêtres. Aujourd'hui, il y a eu pas mal d'améliorations, notamment grâce aux nouvelles technologies qui sont arrivées. Par exemple, en élevage, à une certaine époque, il fallait vraiment qu'on s'attarde après les animaux pour voir si tout allait bien, etc. Aujourd'hui, on a des nouvelles technologies avec des caméras, avec des capteurs, des choses comme ça qui nous permettent de vivre plus aisément. Et également, au niveau du travail dans les champs, on a aujourd'hui, par exemple, des tracteurs qui sont auto-guidés, des choses comme ça qui nous permettent de mieux vivre, autant au niveau de la pénibilité au travail qu'au niveau aussi de l'organisation du travail, car il faut savoir qu'aujourd'hui les agriculteurs donc arrivent en fait à se dégager du temps pour par exemple avoir des week-ends, partir en vacances, etc., et avoir une vie à peu près comme les autres, c'est ça.
Et selon toi, enfin, tu as pu parler à des jeunes qui seraient intéressés par le milieu agricole?
Oui, tout à fait.
Et
Oui.
ça donne quoi? Est-ce qu'ils sont intéressés? Ils sont complètement désintéressés? C'est quoi la tendance?
Ça va dépendre. Je pense qu'aujourd'hui, de plus en plus de jeunes sont curieux en fait de ce milieu, puisque en fait, notamment depuis l'épidémie du Covid-19, etc., on a compris l'intérêt en fait de ce métier. Donc les gens sont curieux. Après, il y a aussi des préjugés qu'il faut souvent essayer de contrer un petit peu, notamment voilà, vous l'avez dit, les préjugés de temps de travail, les préjugés de métier un petit peu où on va être un peu bourru, etc. Mais justement, en communiquant dessus et en rencontrant des personnes qui sont dedans, qui sont passionnées et qui vont essayer de transmettre voilà cette passion et ce savoir, on peut réussir à convaincre des personnes pour sauter le pas, disons.
Donc on le rappelle, Louis Lardière, toi ton cursus à Bordeaux Sciences Agro, c'est ingénieur agronome, mais il y a d'autres cursus.
Tout à fait. Il y a aussi d'autres cursus, notamment des cursus en viticulture. Évidemment, nous sommes ici à Bordeaux, au Pays du Vin,
Forcément.
forcément, mais également d'autres cursus dans divers autres domaines qui touchent de plus ou moins près du monde agricole. Oui, tout à fait.
Et toi, ce qui te plaisait avec le monde agricole, c'est d'innover dans ce domaine.
Tout à fait. Voilà, je suis attrayé par l'innovation. Je pense qu'on a beaucoup d'enjeux, hein, comme je disais, en agriculture. Culture en fait pour faire évoluer à la fois nos pratiques, nos systèmes et ramener de la durabilité dans la globalité du système français. Et pour moi, ça passe par l'innovation et c'est pour ça que je suis attrait par ce secteur-là depuis tout petit et j'essaie de m'y investir à fond.
Alors, je profite d'être dans le magazine étudiant pour en parler de ce cursus. Est-ce qu'il y a des sélections à l'entrée pour entrer à Bordeaux Sciences Agro?
Tout à fait, oui. En fait, le cursus, on va dire de base, bien souvent, on va dire 80% des étudiants font une prépa scientifique ou une prépa quelconque, et après passent un concours pour arriver directement en troisième année. Et donc, pour mon cas, je fais partie des rares étudiants qui sont passés par un autre cursus, une autre filière que la prépa. J'ai fait par exemple un BTS agricole, et j'ai passé aussi un concours pour me permettre de sauter cette prépa et d'arriver direct en troisième année. Donc en fait c'est un concours voilà avec une partie écrite, une partie orale qui est sélectif et qui donc après nous ouvre les portes pour certaines écoles d'agro partout en France.
D'accord. Et au niveau du cursus, du déroulé, ça se passe comment? Il y a des alternances, j'imagine, il y a des stages, vous avez des projets à faire. Au niveau des examens, comment ça se passe? Dis-nous tout, Louis.
Tout à fait. Donc c'est un cursus sur 3 ans avec donc la première année qui est basé sur un tronc commun spécial pour acquérir les compétences et les bases d'un ingénieur. Et après, donc sur les 2 dernières années, on va arriver sur une spécialisation progressive, c'est-à-dire que chaque étudiant va choisir un domaine de prédilection, domaine qui peut être dans la viticulture, dans les productions animales, dans les productions végétales, dans la gestion d'entreprise, enfin peu importe selon les finalités de l'étudiant. Et ce cursus donc peut être fait soit en voie initiale, donc c'est-à-dire avec des stages à réaliser. Donc c'est un stage par année. La première année, c'est un stage de 2 mois, et ensuite c'est 2 stages de 6 mois.
Ah oui,
Et
ok.
sinon, il est possible de le faire en apprentissage, donc en alternance. Et c'est ce que moi je. Enfin, c'est dans quel cursus je suis. Et donc là, après, on a un rythme à peu près, on va dire, 1 mois d'entreprise et 1 mois d'école. C'est ça. Réparti sur les 3 ans.
Et ça va, c'est pas trop dur, tu t'en sors?
Ça va, non, c'est même assez chouette, je trouve. Ça casse un petit peu l'aspect très complet, mais aussi parfois théorique de la formation. Et ça permet de mettre aussi un pied un peu à l'étrier dans le monde du travail et dans la partie professionnelle du métier, quoi.
Oui, c'est vraiment 50-50.
À peu près, ouais. Un peu plus, c'est 60-40. Mais on va dire, lycée sur l'année, c'est comme si c'était 50-50. Parce qu'on a aussi des périodes à faire à l'étranger, donc.
Et tu dirais que ça demande quelles connaissances ou quelles compétences pour réussir dans ce cursus?
Déjà une grande ouverture d'esprit, je pense qu'il faut essayer de s'intéresser à tout un tas de domaines, et également après voilà de la curiosité, et une fois qu'on a acquis la méthode et qu'on a cette ouverture d'esprit, je pense que ça peut réussir à tout à chacun, tout à fait.
Et on le rappelle, le campus de Bordeaux Sciences Agro, c'est juste derrière la radio, juste derrière le campus de Bordeaux Montaigne. Donc c'est. Oui, c'est ça, c'est juste derrière. C'est à Gradignan, mais c'est à la frontière avec Pessac.
C'est ça, exactement. C'est vraiment entre les deux et on a vraiment un cadre agréable pour y travailler. C'est un campus en fait qui fait une quinzaine d'hectares en pleine verdure alors qu'on est quand même dans la ville. Donc on est proche de toute commodité. En même temps, on a un cadre sympa, assez boisé. Et en fait, on a les bâtiments de cours qui sont sur ce campus. Et de l'autre côté, on a les résidences universitaires qui appartiennent donc à l'école. Ce qui fait qu'on est dans un cadre assez sympa qui mêle à la fois amis et école, et étudiants.
Alors, si tu es là aujourd'hui, Louis, c'est surtout pour nous parler d'une invention de ton cru. C'est un biscuit apéro à base de mogettes.
Exactement. Ça peut paraître un peu atypique. Donc, pour retracer un petit peu l'histoire, donc mes parents sont exploitants agricoles en Vendée. Et donc, je suis très attaché à la ferme familiale et assez impliqué depuis tout jeune. Et donc, le produit du terroir, en fait, en Vendée, c'est la Maugette, donc, qui est un petit haricot blanc du terroir vendéen. Et donc, depuis, on va dire, 6 mois, j'ai essayé, donc avec plusieurs collaborateurs, de réinventer, en fait, cet haricot blanc en imaginant, en fait, un nouveau procédé technologique permettant de le transformer en gâteau apéro. Et donc, voilà, on a fait plusieurs tests en recherche et développement pour lancer ce nouveau produit. Et là, on est arrivé à nos fins, donc on est en production et son lancement se fait dans 15 jours. Donc, un biscuit apéro, en fait, à base de Maugette, qui va être enrobé de différents goûts, des goûts par exemple à la tomate, aux épices, au thym, à l'ail, au curry, etc., qui rend, voilà, la Maugette sous une nouvelle forme et qui la durabilise également pour nos apéros.
Alors souvent, les biscuits apéro, c'est fait à base de quoi? À base de patates pour tout ce qui est chips. Il y a quoi d'autre en fait? On se rend compte qu'on ne s'intéresse pas suffisamment aux biscuits apéritifs et ce qui les compose.
Tout à fait. C'est souvent, en fait, des biscuits apéritifs qui sont ultra transformés. Hein. On a souvent, voilà, connotation avec des Curly, des 3D, des choses comme ça. On ne sait pas vraiment ce qu'il y a dedans, comme vous dites. Et là, l'intérêt avec ces gâteaux à la Maugette, c'est que c'est vraiment nos haricots bruts qui ont été simplement enfin, transformés, c'est-à-dire torréfiés et enrobés d'une saveur, et qui sont en brut, donc non ultra transformés, et qui sont aussi très sains pour les hommes, avec un grand H, puisque ce sont des légumineuses qui sont très riches en fer, en protéines, en antioxydants, et qui sont bien plus sains que tout un tas de gâteaux apéro qui sont très salés et gras. Donc c'est ça qu'on essaye de valoriser dans ce type de produit.
Donc là, avec tes Maugettes, Louis, ce sera pas gras. Parce que c'est vrai que ce qui caractérise un biscuit apéro, c'est le gras. On en a plein les doigts, on le voit, mais là, ce sera pas le cas.
Tout à fait. Non, non. On essaye, voilà, de faire un biscuit assez, on va dire, healthy, et en même temps toujours aussi gourmand, bien sûr. C'est le but. Et c'est le défi, voilà, qu'on s'est donné au sein de cette recherche et développement.
Alors, tu nous as dit, il y a notamment un procédé technologique, hein, qui rentre en jeu, que vous avez développé avec des partenaires. C'est quoi ce procédé? Est-ce qu'il diffère de ce qui existe déjà?
C'est un procédé de torréfaction, en fait. Donc, on a mis au point, on va dire, une sorte de recettes, en fait, pour les torréfier et pour faire l'enrobage, en fait, avec les saveurs qu'on souhaite en parallèle, en même temps. Et donc ça, c'est avec des partenaires qui sont basés à Lyon, donc qui sont comme moi ingénieurs agronomes spécialisés, eux, en agroalimentaire, et qui nous ont permis, donc, de développer ce produit et eux, du coup, de développer leur gamme de prestations.
Alors c'est ça, ce projet, tu l'as fait avec Chiche.
Tout
c'est
à
eux
fait.
Qui sont lyonnais?
C'est ça, tout à fait.
Ok, c'est une start-up, donc c'est eux qui ont répondu à l'appel. Ils étaient vraiment intéressés
tout à fait,
par ton
ouais.
projet.
Ils avaient déjà testé sur des pois chiches, sur des pois cassés et des fèves également. Et en fait, on les avait sollicités pour tester avec nos Maugettes, et ils avaient été favorables à l'idée. Donc voilà, on a démarré ensemble, et aujourd'hui, on est très contents de collaborer avec eux.
Juste pour être sûr, le procédé de torréfaction, c'est quoi? C'est qu'on grille la graine? C'est redis-nous en fait.
C'est ça, tout à fait. En fait, on va griller la graine pour la rendre non pas dure, mais croquante, en fait. Ce qui fait qu'elle va être vraiment assez fluide et malléable en bouche, tout en ayant un peu cette envie d'y retourner, de retourner vers le produit, cette appétence, quoi. Et c'est ça qui va rendre le produit intéressant. Parce que c'est vrai que quand on connaît un haricot blanc, bon, à la forme brute ou sec, c'est quand même quelque chose d'assez dur. D'où l'aspect un peu innovant du procédé technologique, quoi, c'est ça.
Mais alors, par rapport aux cacahuètes qu'on trouve à l'apéro, parce que par exemple une cacahuète en soi, c'est pas mauvais pour la santé, hein, mais c'est vrai, on a toujours du gras sur les mains.
Tout à fait.
Comment ça se fait en fait?
C'est un peu plus gras. Après, ça vient aussi du produit en soi, puisque la cacahuète est naturellement plus grasse. Mais également les procédés, en fait, bien souvent on retrouve des cacahuètes qui sont salées, en fait, par exemple les cacahuètes Mengis, etc., qu'on retrouve dans le commerce. Et pourquoi elles sont plus grasses? Parce qu'en fait, pour faire tenir le sel dessus, ils rajoutent une fine pellicule de matière grasse. Et c'est pour ça qu'on a cette sensation un petit peu sur les doigts de matière grasse. Tout
Et
à fait.
Comment tu fais pour mettre un enrobage sur tes Maugettes sans que ce soit gras pour que ça tienne?
En fait, on extrude naturellement l'huile, enfin la matière grasse du moins des haricots, qu'on va rajouter ensuite dans notre enrobage. Et ce qui fait qu'on va rester à la même matière grasse que le produit avait au début. On va rester sur les mêmes taux.
Donc on reste, voilà, sur un taux de matière grasse, mais de toute façon tous les aliments ont au moins un peu de matière grasse.
Tout à fait.
Voilà, on va pas devenir gros et gras en mangeant tes biscuits, qui vont s'appeler comment d'ailleurs?
Ce sera les croque-mogettes.
Les croque-mogettes, c'est tout mignon.
Tout à fait.
Donc on le rappelle, les mogettes, hein, c'est le haricot blanc. Je croyais que c'était le petit nom juste des haricots blancs, comme ça, le nom scientifique, tu vois. Mais non, c'est les haricots blancs qui viennent de Vendée, particulièrement.
C'est ça, tout à fait, voilà.
Et donc ça va se présenter sous forme de haricot, c'est le haricot en lui-même.
Tout à fait,
comme
voilà.
Quand on prend des cacahuètes ou les maïs croustillants.
Tout à fait, on pourra piocher comme ça dans un bol avec des olives, avec tout un tas d'autres biscuits qui accompagnera le.
Avec des 3D, des trucs pour comparer et se dire oh, c'est quand même vachement mieux.
Exactement. Et plus durable parce que on parlait tout à l'heure de cacahuètes justement. Il faut savoir qu'aujourd'hui en France on ne produit pas de cacahuètes, tout est importé. Et bien souvent tous les gâteaux apéro qu'on trouve dans le commerce, enfin du moins une grande partie, ils sont donc ultra transformés comme je le disais. Et les produits bruts utilisés pour les confectionner ne sont bien souvent pas originaires de France. Donc là on est sur un produit local en plus de ça avec un bilan carbone moindre qui fait que voilà, on répond à tout un tas d'enjeux aussi auxquels on fait face.
Et tu nous l'as dit Louis, donc tes parents sont exploitants agricoles en Vendée, donc toi tu es attaché à cette ferme et à la mogette qu'ils cultivent. Et tu t'es dit je vais faire un biscuit apéro parce que j'aime bien l'apéro.
Notamment aussi.
Mais... Notamment.
Non, en fait c'était un peu une réflexion que je m'étais faite lors du Covid. En fait on travaille beaucoup avec des magasins producteurs et des épiceries fines en fait dans la région. Et en fait, en faisant une livraison de nos produits, c'est vrai qu'il y avait une cohue un petit peu de la consommation responsable et consommation locale de la part des consommateurs. Et en fait, je m'étais fait la réflexion, je m'étais dit, c'est vrai qu'aujourd'hui, tous les consommateurs souhaitent manger local. Donc, en entrée, en plat de résistance, en dessert, ils peuvent y être. Mais souvent, dès l'apéro, on est un peu dans le déni. Parce qu'il existe très peu de gâteaux apéro français, responsables, ou au moins avec le produit brut qui est local. Quoi.
Ouais, les chips Bretz, ça compte pas du coup.
Ça compte, mais on va dire que ça représente peut-être 2% du marché des gâteaux apéritifs, donc je veux dire, il y en a très peu. Et donc c'est pour ça que m'était venue cette réflexion un peu de ramener un peu de durabilité dans cette partie apéritif. Et donc j'avais eu cette idée avec les mogettes, et également je m'étais questionné un petit peu sur justement comment poussent les cacahuètes. Et je me suis lancé le défi en fait il y a 2 ans de faire pousser en fait des cacahuètes sur nos terres. Et il s'est avéré que ça a bien marché. Et donc pour la 2e année, nous cultivons maintenant des cacahuètes sur la ferme que nous commercialisons également sous les biais de la vente directe et des circuits courts dans les magasins de producteurs pour toujours dynamiser un peu cet étal de vente et ramener un peu de localité dans les produits.
Parce que vient d'où la plus grosse production de cacahuètes en Europe ou en France? Quand on veut acheter voilà, des cacahuètes pour l'apéro, elles viennent d'où?
Bien souvent, c'est soit Chine ou soit Canada, États-Unis, en fait. Ouais. Il y a vraiment 2 gros leaders aujourd'hui qui se basent dans ces pays. Et après, sinon, il y a un bassin autour du Sénégal également. En fait, il faut des pays voilà, avec des climats quand même assez chauds et un petit peu d'humidité. Et en fait, la remarque que je m'étais faite, c'est qu'avec le réchauffement climatique, on a des étés de plus en plus chauds. C'est vrai qu'on entend souvent que l'agriculture, notamment, en souffre hein, avec des sécheresses, etc. Donc la chaleur, on va dire, on l'a. Et grâce à des techniques durables en fait, d'irrigation, on peut aussi recréer ce climat tropical, ramener un petit peu d'humidité au climat et donc faire pousser de nouvelles plantes, hein, typiquement comme sont les cacahuètes. Et c'est ainsi voilà, qu'on a fait le pari de la production et que ça a marché.
Et que ça marche. Mais est-ce que ça ne demande pas trop d'énergie ou de transformation de l'environnement de la cacahuète pour en faire pousser en France?
Du tout non en fait, parce que donc comme je vous disais, la chaleur on l'a, enfin nous l'avons,
voilà,
et ensuite il suffit d'irriguer cette été par exemple où il a fait très chaud, on a irrigué 2 fois, mais par exemple en comparant à un maïs on irrigue 5 fois. Donc on va dire que c'est même économe en intrants puisque c'est une plante qui pousse naturellement dans des climats chauds, donc qui naturellement est plus résistante, plus rustique et qui du coup demandera moins d'intrants en fait pour pousser aussi bien qu'un autre type de produit quoi.
Et ces cacahuètes, tu les fais pousser en Vendée?
En Vendée, tout à fait.
Donc
ouais.
Dans la ferme de tes parents?
Sur mon exploitation, c'est ça exactement, sur l'exploitation familiale, ouais.
Et c'est dingue, il n'y a pas de producteur européen pour la cacahuète?
Et non, ouais, y en a un petit peu en Espagne, en France en fait il y en a un dans les Landes, et autrement c'est en Espagne ou après dans d'autres pays du coup du globe.
Ah, mais c'est, du coup c'est minoritaire, c'est insignifiant en fait en termes de production.
Aujourd'hui,
dès qu'on veut acheter quelque chose, ça vient de l'autre bout du monde. Quoi.
C'est ça, voilà. Donc il en fallait qu'il y ait le déclic et qu'il essaye de... Mais peut-être que dans 10 ans, ce sera différent, voilà. Mais aujourd'hui, ouais, l'état actuel des choses, c'est celui-ci, ouais.
Mais alors, si on applique les recommandations des écologistes et que le réchauffement climatique, on arrive à le faire reculer, c'est pas bon pour les affaires.
Non.
C'est pas bon pour les cacahuètes.
Comment allons-nous faire?
Et ben, on mangera des mogettes.
Voilà, exactement.
C'est difficile à... Non, c'est moins difficile à cultiver les cacahuètes. Du coup, tu as dit 2 irrigations.
Tout à fait.
Et ça pousse tout seul. Il y a des contraintes comme ça qu'on connaît pas ou...
Des contraintes culturelles. Assez... Voilà, ouais. Ça va être évidemment du savoir-faire technique à mettre en place, hein, comme toute culture. Mais ça, c'est l'agriculteur après qui va jauger. Et après, non, il suffit juste de bien faire attention à la récolte. Il faut les récolter assez sèches, donc il ne faut pas les récolter par exemple une semaine où il fait un peu plus humide ou où il a mouillé par exemple, mais sinon non, il n'y a pas de souci particulier. Donc on les récolte, après on va les brosser donc avec un système de brosse pour enlever un peu la terre qu'il y a dessus et l'aspect terreux, et ensuite on va également les torréfier pour qu'elles soient ensuite comestibles. Et du coup, on va pouvoir les décortiquer et ça fera vraiment la cacahuète qu'on connaît, qu'on mange à l'apéritif ou avec des amis.
Et du coup, s'il y a de plus en plus de producteurs français ou européens qui font des cacahuètes, ça peut aussi inciter, enfin, ça fait un effet boule de neige en fait. D'autres producteurs vont se dire, bah oui, en fait, ça, c'est autant s'approprier le nouveau climat qui s'impose. Et donc peut-être que bientôt, voilà, tu l'as dit, dans 10 ans, le marché de la cacahuète aura complètement changé. On pourra acheter des cacahuètes qui viennent d'Europe.
Tout à fait, voilà. Surtout si les industriels ou les entreprises dans l'agroalimentaire s'y mettent aussi et si eux, ils sont demandeurs, je pense que oui, d'ici une dizaine d'années, on devrait avoir plus de producteurs de cacahuètes en France. Ouais, ce serait chouette. Ouais.
Et pour revenir au croque-mogette, c'est un nom qui est très mignon, j'aime beaucoup. Ça n'existe pas ? C'est
non.
La première fois qu'il y a des biscuits apéro avec des haricots.
Exactement, tout à fait. Ouais. C'est vraiment une innovation totale. C'est pour ça d'ailleurs que le procédé technologique a été breveté donc, par Chiche. Et c'est vraiment une innovation. Voilà, personne n'avait mis ça au point, donc on est les premiers à le faire. Et c'est chouette. Ouais,
Parce que des biscuits apéro au pois chiche ou aux lentilles, ça existe depuis très longtemps et c'est très très bon, mais jamais aux haricots blancs.
Exactement.
Au niveau du prix, ça va se caler comment par rapport à ce qu'on trouve dans les supermarchés ? Parce que souvent, quand c'est bien de consommer local, mais ça coûte plus cher.
Tout à fait. On va rester sur une gamme premium, en fait une gamme de produits 100% producteurs, 100% locaux. Donc on va être sur des sachets de 100 grammes en fait. Donc ça va être des sachets un petit peu soit pour offrir, soit pour goûter dans un premier temps. Et on va être sur une gamme premium, donc type par exemple Ben & Nuts, Twist, enfin on sera dans ces prix-là quoi du coup. On est calé en termes d'études de marché, donc on ne sera pas déconnecté, c'est-à-dire que ça reste abordable pour les gens et en même temps, voilà, ça reste des produits qui font plaisir.
D'accord, mais c'est bien de le préciser parce que parfois, moi, j'adore prendre l'apéro, j'adore goûter des nouveaux trucs pour l'apéro et souvent, il y a ces gammes premium dont tu parles avec du beau packaging, des trucs, mais c'est deux voire trois fois plus cher que la gamme Ben & Nuts Twist ou des trucs comme ça qui sont un peu au-dessus du reste. Donc là, non, ça va, c'est réaliste, c'est abordable, on peut goûter sans se ruiner, quoi.
L'intérêt de nos produits, c'est que c'est des produits qui sont sans aucun intermédiaire. En fait, nous, on est producteurs, donc c'est-à-dire qu'on va cultiver nos mogettes dans nos champs. Ensuite, donc le seul, on va dire, intermédiaire, mais qui est en collaboration avec nous, c'est Chiche, donc il va nous les transformer. Et après, c'est nous qui les vendons directement. Donc c'est-à-dire que aucun intermédiaire ne va prendre sa marge et donc la valeur ajoutée va revenir au producteur directement, c'est-à-dire à nous. Et donc on va pouvoir être plus compétitif en fait sur le marché en termes de prix, contrairement à d'autres produits qui sont ultra transformés, qui seront passés par 4 ou 5 intermédiaires et où chaque intermédiaire prend sa petite marge et du coup on arrive parfois à des produits assez onéreux et du coup difficiles à acquérir.
Et les croque-mogettes, on pourra les trouver partout.
C'est ça. On va commencer donc dans la région ouest dans un premier temps. Et après, on aspire d'ici un an donc à descendre sur le sud-ouest également. Et après, pourquoi pas toute la France, voilà, si le produit plaît bien.
D'accord, bah il me tarde de goûter justement. Alors évidemment, la question que tout le monde se pose, c'est est-ce qu'on va péter en mangeant tes biscuits apéro, Louis ?
Eh bien écoutez, ça vous me le direz après, après avoir fait un bel apéro.
Et parce qu'on rappelle, la mogette, hein, ça donne des flatulences.
Tout à fait.
Il faut peut-être s'enfiler plusieurs paquets pour que ça fasse
oui,
cet effet-là.
Je pense, oui.
Louis, tu as encore d'autres projets dans ta besace, mais c'est dingue, tu en as combien ? Là, je déroule mon parchemin. Il y a quoi d'autre ? Tu es aussi télépilote de drone.
Exactement.
Et tu t'en sers pour le milieu agricole.
Tout à fait, notamment, oui. J'ai passé il y a 2 années maintenant mon permis de télépilotage de drone professionnel, car il faut savoir qu'il y a besoin d'un permis tout à fait pour piloter des drones. Et donc voilà, ce permis m'a permis donc d'acquérir un drone professionnel. Donc j'ai investi dans un drone quand même, on va dire de taille assez grosse. Et donc aujourd'hui en fait, je fais des prestations donc pour des entreprises privées, pour des particuliers ou bien pour des organismes publics. Pour des services à base de drones, donc ça peut être de la cartographie par exemple pour la partie agricole, des cartographies de parcelles, donc c'est-à-dire que je vais passer avec mon drone au-dessus des parcelles pour pouvoir filmer un peu la biomasse végétale qui s'y présente et donner en fait ces cartes que j'aurais fait aux agriculteurs et les agriculteurs vont analyser ces cartes et voir à quels endroits il y a moins de biomasse végétale qui a poussé. Et du coup, ils vont moduler les doses qu'ils vont y apporter.
Qu'est-ce que tu appelles la biomasse végétale exactement ?
C'est la quantité en fait de végétaux qu'il y a. Par exemple, si quand on implante 10 000 graines, je dis n'importe quoi, si on implante 10 000 graines de maïs, par rapport aux températures, par rapport à l'environnement, etc., il y en a peut-être que 8 000 qui vont pousser. Et bien en fait, on va repérer les endroits où ces graines n'ont pas poussé.
Sur le champ.
Donc voilà, où le champ, c'est-à-dire est à nu, quoi, où il n'y a que de la terre et pas de végétaux. Et en fait, l'agriculteur va moduler en fait les doses, par exemple, d'engrais qu'il va apporter ou de choses comme ça. pour en fait à la fois avoir un intérêt économique, lui, donc mettre moins de produits, et à la fois avoir un intérêt également environnemental pour en fait moins polluer les milieux et être plus résilient.
D'accord.
C'est ça. Et donc ça, c'est, on va dire, une de mes parties de mes prestations. Et d'autres, après, ça va être faire des prestations d'entreprise. Donc, par exemple, des photos ou des vidéos d'entreprise pour faire des promotions, ou simplement, voilà, une photo de par exemple, si Léo, tu veux voilà, ta maison en photo affichée dans ta maison, voilà, je suis en mesure de la prendre et de t'imprimer tout ça. Et donc, voilà. Ouais.
Bah écoute, dès que j'ai une maison, je t'appelle, Louis. Ok, ouais, ça, c'est plus les prestations qu'on a l'habitude de voir avec des drones.
Tout à fait.
Mais en tout cas, voilà, le milieu agricole peut bénéficier de cette cartographie qui est très précieuse, finalement.
Tout à fait. Et donc, là, on parlait de nouvelles technologies tout à l'heure. Et en fait, les drones, aujourd'hui, arrivent comme un élément voilà, crédible et essentiel aux nouvelles technologies dans le milieu agricole et à la durabilité de nos systèmes agricoles, car ça va permettre donc, de moduler les doses qu'on va apporter et donc d'être plus voilà, économe en intrants et donc d'être aussi plus durable au niveau biodiversité, au niveau des sols, de l'eau, etc. quoi.
Parce que comment on cartographie une parcelle agricole ? C'est quoi le moyen traditionnel, je veux dire ?
Donc, normalement, on utilise des satellites, en fait, simplement.
Ah oui, d'accord.
Voilà, tout à fait, sauf que les satellites sont assez peu précis, vu qu'ils sont, bien sûr, très haut dans le ciel. Et là, avec un drone, donc, on va passer plus bas, et en fait, on a des capteurs spéciaux sur les caméras qui vont permettre en fait de détecter, ça peut être voilà la photosynthèse, ça va être donc l'indice de biomasse, ça peut être
génial.
La pression voilà fongique, enfin il y a tout un tas de capteurs quoi.
Et c'est pas que des petites caméras, voilà, c'est des caméras spécialisées pour voir des choses invisibles à l'œil quoi.
Tout à fait, c'est ça.
Oh, c'est dingue ce qu'on arrive à faire aujourd'hui avec la technologie.
Ah, c'est vrai.
Et pour finir, Louis Lardière, tu développes également une filière agricole d'élevage d'insectes au service de la nutrition animale dans les Pays de la Loire.
Tout à fait. Alors, je vous parlais tout à l'heure du cursus d'ingénieur agronome qui est faisable en alternance. Donc, c'est mon cas. Et donc, je suis aujourd'hui, donc depuis un an et demi en alternance, dans une entreprise à Clermont-Ferrand qui s'appelle Inverse, donc, qui développe une filière d'élevage d'insectes au service donc, de la nutrition animale. Donc, pour m'expliquer un petit peu, en fait, aujourd'hui, il faut savoir que pour nourrir notamment les poulets, les poules, les poissons d'élevage ou encore les porcs, on utilise beaucoup de soja. Soja, en fait, qui est importé bien souvent du Brésil et qui participe en fait à la déforestation. Et en fait, on a eu l'idée donc de développer une protéine alternative, hein, donc c'est-à-dire de savoir comment remplacer en fait ce soja qui est non durable. Et en fait, on a lancé l'idée de développer une filière d'élevage d'insectes, donc c'est-à-dire qu'on élève des insectes dans des bacs qu'on empile en hauteur chez des agriculteurs, qui vont recycler des déchets céréaliers ou des déchets organiques, comme par exemple voilà, des déchets de carottes, des déchets de pommes de terre, des déchets de navets, etc. Et qui vont donc grossir. Et une fois ces larves donc, arrivées à maturité, on va les récolter et les transformer en protéines en fait, donc, d'insectes. Et elles vont venir remplacer donc, les protéines de soja dans les rations animales pour donc, toujours ramener de la durabilité à l'élevage en fait, et pouvoir garantir du coup, plus de... Enfin, un meilleur, on va dire, impact environnemental sur nos systèmes.
Et en termes d'apport nutritionnel, les insectes par rapport au soja ou ce qu'on donne habituellement aux animaux d'élevage, ça représente quoi ?
L'intérêt, c'est que aujourd'hui, donc, un soja, c'est la matière végétale protéique la plus intéressante qu'on a sur le marché. On est à peu près à 35% de protéines et un insecte, on est à 62%. Donc, c'est-à-dire qu'on en mettrait quasiment deux fois moins dans une ration. Alors qu'on en produit 10 à 15 fois plus sur une même surface. Parce que, comme je vous le disais, aujourd'hui, quand on va produire sur 1 hectare, donc sur 10 000 m², à peu près 3 tonnes de soja sur le sol, les insectes, vu qu'on les élève dans des bacs qu'on va empiler, donc on va travailler sur la hauteur, on va pouvoir en sortir à peu près 20 tonnes sur 1 000 m². Donc c'est quand même énorme le différentiel quoi.
Ah oui, donc c'est tout bénef. Bon, ça me plaît pas beaucoup l'élevage d'insectes parce que je suis insectophobe, mais c'est une bonne nouvelle, surtout que c'était un débat je crois il y a quelques années. On nous disait oui, avec les ressources qui s'amenuisent, il faudra manger des insectes. Mais maintenant on s'est dit on va plutôt nourrir les animaux avec.
Tout à fait, on peut imaginer, je pense que dans 10, 15 ou 20 ans ça viendra aussi en alimentation humaine. Aujourd'hui donc, c'est autorisé hein, mais c'est encore une minorité. Je pense avant tout que c'est une problématique qui est de l'ordre culturel hein, parce que voilà, quand on va dans des pays asiatiques ils en mangent communément hein,
des insectes. Brochettes là, voilà.
Exactement, voilà. Aujourd'hui nous on n'est pas encore, on n'a pas été disons habitués à ça, mais Avec les aliments alternatifs auxquels on fait face, oui, voilà, peut-être qu'on peut imaginer que d'ici une quinzaine, vingtaine d'années, ce sera dans nos assiettes. Mais aujourd'hui, bon, déjà, on se focus, on va dire, sur le feed, hein, sur l'alimentation animale. Et aujourd'hui, il y a vraiment des réels enjeux, des réels marchés qui sont en face. Et voilà, il y a, à mon sens, beaucoup d'intérêt à cette production chez nous en France.
Parce que voilà, élever, cultiver, cultiver ou élever des
élever,
insectes.
Élever, ça reste
des insectes,
de l'élevage.
Voilà, ça reste de l'élevage. Ça coûte pas grand-chose, voilà. Ça demande peu de ressources, peu de nourriture pour les nourrir et ils se reproduisent énormément.
Tout à fait, peu de nourriture et surtout en fait de la nourriture qui n'aurait pas été utilisée pour ni l'alimentation humaine ni animale finalement vu que ce sont des déchets et donc peu de place également et en fait ça en fait une production viable et durable, exactement.
Mais tous les animaux ne mangent pas d'insectes, par exemple les vaches on ne peut pas les nourrir avec ces aliments.
Tout à fait, on est vraiment sur les marchés aujourd'hui donc de la volaille, c'est-à-dire des poules pondeuses et des poulets, également des porcs et de la pisciculture aussi, donc les poissons d'élevage et notre premier marché aujourd'hui en termes de volume, c'est également la pet food, donc c'est-à-dire les chiens et les chats. En fait, on va faire des croquettes du coup à base de ces vers de farine, donc de ces insectes, pour remplacer du coup les protéines non durables, comme par exemple les abats qui sont utilisés dedans, ou des poussins broyés, des choses comme ça, remplacés par des insectes qui sont nourris avec amour et passion par nos agriculteurs partenaires.
Ah, donc les chats et les chiens, par exemple, ça mangerait des insectes?
Tout à fait, tout à fait. On le voit bien quand on lâche par exemple notre animal dehors, on voit les chiens des fois qui chassent les libellules ou les chats qui grattent au sol. Et en fait, les insectes entrent vraiment dans le régime naturel de ces animaux-là. Tout comme une poule va essayer de nicher au sol les insectes quand elle est dehors, ou un porc va essayer de joncher au sol.
D'accord, donc un changement qui va venir dans la manière de nourrir les animaux.
Tout à fait, voilà, essayer de trouver des alternatives en fait aux protéines non durables pour pouvoir améliorer nos pratiques et notre impact sur l'environnement pour améliorer tout ça. Ouais.
Et ces recherches-là, ça relève de la zootechnie, c'est ça, hein ?
Exactement, tout à fait. C'est ce qu'on étudie notamment aussi ici à Bordeaux Sciences Agro. En fait, c'est l'étude du vivant, mais plus sur la partie animale au sens propre, donc c'est-à-dire la partie biologique, la partie reproduction, alimentation, sanitaire, etc. Et c'est tout un domaine qu'on appelle la zootechnie, c'est ça.
Alors Louis Lardière, merci beaucoup d'être venu à Radio Campus, de nous avoir expliqué en détail tes études, ce qu'on fait à Bordeaux Sciences Agro et de tous tes projets. On se retrouvera peut-être autour d'une bière et de croque-mogette, qui sait, ou de cacahuètes qui viennent de Vendée. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter ? Une bonne continuation, de belles finalisations de projets et plein de nouvelles idées ?
Eh bien merci à toi Léo, en tout cas de m'avoir chroniqué, et merci à toute l'équipe de Radio Campus.